Paris a froid, Paris a faim.
En 1942, le résistant et poète Paul Éluard a écrit un texte sublime sur Paris, ville occupée par les Allemands.
Ne crie pas au secours, Paris.
Un poème intitulé Courage et qui donne de la force aux Parisiens et aux Parisiennes qui attendent nerveusement l'arrivée des Alliés en août 1944.
Paris, ma belle ville, fine comme une aiguille, forte comme une épée, ingénue et savante, tu ne supportes pas l'injustice. Pour toi, c'est le seul désordre. Tu vas te libérer, Paris.
Et c'est avec le concours du général Leclerc que Paris se libère.
Le général Leclerc me charge de vous dire, tenez bon, nous arrivons.
Les deux résistances, intérieure et extérieure, se sont réunies dans les combats de la libération de Paris. Et c'est la trame de ce nouvel épisode.
Écoutez le général Leclerc.
La France de Gaulle, celle qui a refusé de cesser le feu, retrouve la France de l'intérieur, celle qui a refusé de courber le front.
À la tête de sa deuxième division blindée, le général Leclerc a quitté le Maroc pour l'Angleterre le 17 avril 1944. De retour en Europe, après 4 ans passés à combattre les forces de l'Axe sur le continent africain,
couchez-vous !
Leclerc s'apprête à livrer bataille pour libérer la France. Participer à la libération aux côtés des Alliés, c'est d'abord une affaire militaire, mais c'est aussi, et peut-être plus encore, une affaire politique.
Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
Pour la France libre et pour De Gaulle, il s'agit d'asseoir une légitimité et de s'emparer du pouvoir pour restaurer l'ordre républicain. Dans ce nouvel épisode, vous allez comprendre comment le général Leclerc et sa deuxième division blindée ont été l'outil des ambitions gaulliennes.
Philippe de Haute-Cloc n'est plus. Le général Leclerc est entré dans la légende.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez La Cavale du général Leclerc. Cinquième épisode, Paris, le jour de gloire.
Quel homme était-il ?
Leclerc, c'était le héros, c'était le type pur.
C'était l'efficacité, c'était la loyauté et c'était la rapidité.
Quel homme était-il ?
C'était un homme intérieur, c'était un homme spirituel aussi, je crois.
Pour Leclerc, il suffit !
Adoré de ses hommes à l'égal d'un souverain ou d'un prophète, il avait inspiré l'esprit qui l'animait à toute sa division.
Juif, chrétien, musulman, héritier de la vieille France aristocratique et paysans arabes, ouvrier de la banlieue parisienne, évadé d'Alsace.
Et à Berlin.
Cette épopée Leclerc, cette épopée de la France libre, chantera toujours sur des syllabes claires et sur des accents de triomphe qui sont ceux du nom de Leclerc de Haute-Cloc.
Le récit débute à Dalton Hall, dans la campagne anglaise du Yorkshire, fin juillet 1944. Le débarquement en Normandie a eu lieu depuis presque 2 mois.
Blesse mon cœur d'une langueur monotone.
Et les Alliés ont déjà libéré Cherbourg et Caen.
Attention, répète après moi. Welcome to Americans.
Welcome to Americans.
Le général Leclerc, lui, trépigne. Il est stationné avec sa division à Dalton Hall, où il met au point les derniers réglages avec les Américains avant de débarquer à son tour sur le sol de France. Leclerc est à la tête de 15 000 hommes et d'une cinquantaine de femmes. Oui, des femmes. Elles forment ce qu'on appelle le groupe Rochambeau, surnommé les Rochambelles. Qui sont-elles ?
Alors, le groupe, il est né dans l'imagination de Florence Conrad, après l'opération Torche, c'est-à-dire après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord en novembre 1942.
L'historien Sébastien Albertelli.
Et l'idée, c'est de constituer un groupe d'ambulancière et d'infirmière pour participer à la libération de la France. Voilà. Bon. Florence Conrad s'est assurée des appuis, elle a plein de relations, donc elle a réussi à avoir beaucoup d'argent, notamment d'associations féministes, et avec cet argent, elle a pu acheter 19 ambulances neuves, flambant neuves, équipées, qu'elle propose d'envoyer pour participer à la libération de la France.
Alors, on parle de 19 ambulances toutes neuves, mais elle compte aussi y mettre des ambulancières dans les ambulances. Est-ce qu'on peut tenter de dresser un portrait sociologique de ces ambulancières des Rochambelles ?
Alors, il y a une identité sociologique de l'unité. En tout cas, c'était l'idée de Florence Conrad. Florence Conrad, elle a une idée assez précise, hein, c'est de faire un groupe d'élus triés sur le volet. Il y a une vision quand même assez élitiste de l'entre-soi social. Bon, elles font partie toutes d'un milieu qui est un milieu social aisé, bourgeois. Enfin bon, il y en a quelques-unes évidemment qui échappent à ce modèle-là. Marguerite Marchandeau, par exemple, dont le père travaillait en usine, elle a écrit ses mémoires, elle a dit qu'elle se sentait quand même un petit peu différente. Voilà. Donc, bon, il y a une homogénéité sociale qui les différencie beaucoup de toutes les autres femmes qu'elles vont rencontrer dans l'armée, qu'on appelle à ce moment-là les AFAT, et beaucoup de Rochambelles prennent bien soin de dire « Nous ne sommes pas des AFAT, nous sommes les Rochambelles. »
Le nom Rochambeau est un hommage à un des compagnons de Lafayette.
Voici le comte de Rochambeau qui commandera l'armée de terre en Amérique.
Héros français de la guerre d'indépendance américaine au XVIIIe siècle. Et parmi ces Rochambelles de la 2e DB, on trouve Suzanne Torres, qui témoignait au micro de France Culture en 1970.
Madame, voulez-vous nous raconter comment sont nées les Rochambelles ?
Bien, les Rochambelles sont nées aux États-Unis. Elles sont nées de l'idée assez extraordinaire d'une femme elle-même très extraordinaire, une Américaine déjà âgée, un cas. Florence Conrad, elle était là-bas, rentrée de France, où elle avait passé la plus grande partie de sa vie, avec une seule idée, retourner, se battre en France.
Florence Conrad, américaine francophile, née à Chicago en 1886, a recruté comme bras droit du groupe Rochambeau cette Suzanne Torres. Qui est-elle ?
Alors, Suzanne Torres, c'est une femme un peu plus jeune que Florence Conrad, mais qui, contrairement à toutes les autres Rochambelles, a déjà une expérience, en fait. Alors, c'est l'épouse d'un grand avocat parisien, Henri Torres, et puis en 1939-1940, elle s'est engagée dans les sections sanitaires automobiles, c'est-à-dire qu'elle a fait en sorte de doter l'armée française d'un certain nombre d'ambulances, qu'elle a conduites jusqu'au front, avec lesquelles elle a évacué plutôt des enfants que des soldats. En fait, c'est une femme chevronnée, qui va rapidement s'imposer parmi les Rochambelles et qui va avoir une autorité vraiment naturelle sur ces femmes.
J'ai eu la chance de partir avec ces femmes, d'arriver avec elles au Maroc, et là, par une chance inouïe, d'être incorporée à la 2e DB en formation à Témara. Et ceci grâce au général Koenig, car Florence est allée le voir à Alger, il était chef d'état-major des armées à ce moment-là. Koenig a téléphoné au général Leclerc qui se trouvait à Témara et lui a dit « Ben voilà, j'ai 15 femmes, des femmes, quelle horreur, enfin pas question que je prenne des femmes. » Et alors le général Koenig lui a dit « Elles ont 19 ambulances toutes neuves. » Alors ça, nous avons été sauvés par la beauté de notre dot.
Partie de New York, les Rochambelles débarquent au Maroc à la fin de l'année 1943 et sont aussitôt intégrées à la 2e division blindée malgré toutes les réticences de Leclerc.
Le général Leclerc, c'est un cavalier, enfin, c'est un militaire quand même traditionnel. Il a une vision traditionnelle de l'armée, de la répartition des rôles, etc. Donc l'idée d'intégrer des femmes dans la division qu'il est en train d'essayer de monter, c'est pas du tout possible. Très rapidement, il change d'avis. Déjà, le 4 août 1940, quand il n'était que commandant et qu'il s'est exprimé à la BBC à Londres.
Ici Londres, les Français parlent aux Français.
Il a loué le patriotisme qu'il avait observé chez un certain nombre de femmes françaises.
Le patriotisme de certaines femmes françaises a fait en particulier mon admiration.
Après, bon, le général Leclerc, on le sait, il aime l'initiative, il aime l'audace, et évidemment son périple a accentué ces traits-là chez lui et chez ceux qu'il apprécie, mais bon, c'est quand même pas ça du tout l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il est littéralement obsédé par la constitution de sa division blindée, qu'il a besoin de troupes, qu'il a besoin d'ambulances, qu'il a besoin d'ambulancières. Pour monter sa division blindée, il va être obligé d'accepter à peu près tout ce qui se présente à lui. Il est obligé d'accepter des vichistes, donc pourquoi pas des femmes voilà. Et donc, il va se ranger à cette idée, d'autant plus que ces femmes, elles arrivent avec ce que Suzanne Torres appelle une dot irrésistible. Elles arrivent avec 19 ambulances flambant neuves dont il a absolument besoin. Il ne peut pas avoir les ambulances sans les femmes, donc va pour les femmes.
Et c'est avec ces ambulancières, au milieu de 15 000 soldats, que Leclerc débarque à Utah Beach, dans le Cotentin, le 1er août 1940.
Français, enfin voici l'heure tant attendue. Nous remettons le pied sur le sol de la patrie.
Dégagez la rampe !
Intégrée à la 3e armée américaine, sous les ordres du général Patton, la 2e division blindée se distingue très vite par son efficacité au combat.
On demande deux brancardiers, partout.
Et alors, que peut-on dire du rôle des ambulancières de Leclerc sous le feu de cette bataille de Normandie?
Alors, les Rochambeau, elles servent au sein du bataillon médical exactement comme des hommes. En fait, il y a trois groupements de chars au sein de la division. Dans deux de ces groupements, ce sont des hommes qui sont ambulanciers, et dans un de ces groupements, ce sont des femmes, les Rochambeau.
Vous avez trois pédales, celle-ci pour freiner, celle-ci pour accélérer.
La troisième, c'est l'embrayage, d'accord? Et ce grand manche-là, c'est le levier de vitesse.
Bon, prête?
Allez, vas-y, essaie.
Ce sont avant tout des ambulancières. C'est-à-dire qu'elles sont là pour conduire des ambulances, elles passent un permis militaire, etc. C'est ça, d'abord, leur fonction. Et puis ensuite, leur rôle principal, c'est de ramasser les blessés, d'être immédiatement derrière les troupes qui sont au contact, de ramasser les blessés pour les évacuer vers des centres de triage à l'arrière ou vers des hôpitaux.
Ça va aller ? Je sais que ces transports sont pénibles. Je suis désolée.
Elles vont aussi avoir pour rôle de dispenser les premiers soins. Donc, elles suivent des formations pour dispenser les premiers soins. Il y en a quelques-unes qui sont infirmières, mais pas beaucoup. Elles sont très recherchées, évidemment, parce que celles-là, elles peuvent aller plus loin dans les soins qu'elles vont prodiguer aux blessés.
Vous avez mal ? Vous avez besoin de quelque chose ?
Oui.
D'accord. Ça va vous soulager ?
Pour l'essentiel, leur rôle, c'est de ramasser les hommes qui tombent au combat, pas les morts, elles ont ordre de ne pas s'occuper des morts, mais vraiment des blessés, de les évacuer et de retourner au contact. Voilà.
Et puis le 12 août 1944, les soldats de Leclerc libèrent Alençon, première ville métropolitaine libérée par une unité française.
Leclerc a pris Alençon tout seul, avec deux sections d'infanterie.
Maurice Schumann, 1944.
Ses premiers chars suivaient aussi vite qu'ils le pouvaient, mais Leclerc les avait gagnés de vitesse.
Il s'ensuit de rudes combats dans la forêt des Couves, dans l'Orne, entre la 2e DB et les troupes allemandes. Est-ce que les Rochambeau participent au combat ?
Alors, elles n'ont pas d'armes, elles ne combattent pas les armes à la main, mais elles sont vraiment directement au contact. Et puis, il faut bien réaliser qu'en Normandie, par exemple, le front est tellement fluide qu'en réalité, être au contact, c'est parfois être en plein milieu. Et il n'est pas rare qu'elles se retrouvent en plein milieu des combats. Dès leur arrivée, elles arrivent début août 1944, près d'Avranches, le premier jour où elles sont sur le sol français, elles sont sous un bombardement extraordinaire qui détruit au moins une des ambulances. Une d'entre elles est blessée gravement aux jambes et Florence Conrad, à ce moment-là, est tellement choquée par ce qui se passe que, en fait, elle va renoncer à diriger le groupe pour la suite et elle va transmettre le flambeau à Suzanne Torres. Donc, il y a vraiment un baptême du feu, là, qui est extrêmement violent. Et puis, par la suite, eh ben, il y en a plusieurs qui vont être blessés. Il y en a au moins deux qui meurent pendant la campagne. Et donc, un danger, voilà, permanent.
Sœurs d'armes sur le front de Normandie. Qu'est-ce qu'on peut dire des relations qui se sont nouées entre ces ambulancières et les hommes de la 2e DB ?
Alors, les Rochambeau, c'est quelques dizaines de femmes, 19 véhicules dans une division qui compte des milliers de véhicules et plus de 15 000 hommes. Donc, il faut ramener les choses à leur juste proportion. C'est une goutte d'eau dans cette immense unité qu'est la 2e DB. Bon. Pour les hommes avec lesquels elles sont en contact, au départ, leur présence pose clairement un problème. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas bien accueillies. Au sein du bataillon médical, elles ne sont clairement pas bien accueillies. Ce qu'on leur reproche, c'est assez général, en fait. On reproche généralement aux femmes moins leur comportement que le désordre que leur présence risque d'apporter au sein d'une unité qui est peuplée d'hommes. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne reproche pas aux femmes leur comportement, on reproche aux femmes de mettre les hommes en position de ne pas se maîtriser. Donc, bon, c'est essentiellement ça qu'on leur reproche. Et puis, il va falloir du temps pour que la sauce prenne. Et le temps, et puis surtout l'épreuve du feu. C'est-à-dire que les choses vont s'améliorer progressivement au Maroc, en Angleterre, au rythme des entraînements. Mais c'est l'épreuve du feu. C'est-à-dire que c'est quand ces hommes vont réaliser à quel point elles font preuve de courage dans le combat que là, réellement, il y a quelque chose qui se passe et qu'elles sont, on peut dire, adoptées par l'unité. Même un officier, par exemple, comme le docteur Chauliac, qui pourtant, au départ, fait partie de ceux, il le dit lui-même, hein, qui dit on ne les a pas bien accueillis. Bah, après les combats de Normandie, exprime vraiment son admiration pour leur dévouement, leur courage au combat. Il n'empêche, ce sont des femmes. Ce sont des femmes et donc elles sont perpétuellement épiées, contrôlées. Elles ont une image à donner bien plus que les hommes. Elles ont une réputation à tenir bien plus que les hommes. Voilà, elles ne peuvent pas se permettre parce que, évidemment, toute faute de comportement nuirait au groupe tout entier.
Suzanne Torres, 1970.
Ces hommes étaient au fond assez mécontents de voir des femmes dans leur rang. Nous avons subi de leur part ou même quelques avanies assez désagréables. Jusqu'au jour où, pour un tas de raisons, ils ont compris que nous étions comme ça, disaient-ils en mettant leur pouce en l'air. Et ils ont concrétisé leur approbation en féminisant ce nom de Rochambeau et en disant les Rochambelles. Et ce n'est qu'après la Normandie et quand vraiment nous avons été mêlés à leur vie de la façon souvent la plus tragique, qu'ils ont ajouté ce petit adjectif possessif, nos Rochambelles, qui nous ont prouvé que nous étions plus qu'admirables.
Ce sont donc une cinquantaine de femmes, c'est la guerre, ont des conditions très particulières. Est-ce que des relations intimes se sont nouées entre les Rochambelles et certains soldats, officiers, sous-officiers de la 2e division de l'Allée ? Est-ce qu'elles ont le droit déjà de fréquenter les hommes de la 2e DB ?
Bien sûr, au sein de l'unité, il y a des relations qui se nouent. Il y a des grossesses, il y a une trentaine de mariages quand même. Voilà. Donc il y a des relations, c'est pas quelque chose dont elles aimaient beaucoup parler. L'exemple venait de tout en haut, puisque en fait chacun savait qu'il y avait une idylle entre Suzanne Torres, la patronne sur le terrain, et Jacques Massu, l'un des officiers emblématiques de l'unité. Donc voilà, tout le monde le savait. C'était une source un peu quand même d'inconfort. Voilà, on n'aimait pas trop parler de ça. Encore une fois, plusieurs se sont retrouvés enceintes, ont été obligées de quitter l'unité. Une des questions qui demeure, c'est de savoir si elles ont entretenu des relations avec les hommes ou si elles ont entretenu des relations privilégiées avec les officiers. Et il semblerait que ce soit quand même davantage avec les officiers. D'ailleurs, ça correspond davantage au plan initial de Florence Conrad, qui aurait pensé un peu que ses filles, puisque c'est comme ça qu'elle les appelle, ces filles auraient été un peu déchues si elles avaient accepté de flirter ou de nouer des relations avec des hommes qui n'auraient pas été galonnés.
Que signifie pour vous d'avoir été Rochambelle ?
Le magazine féminin, 1969.
Ça a transformé notre vie, je crois, à toutes.
Les plus belles années de notre histoire.
Ça a illuminé notre vie, ça a d'abord rendu cette fraternité qui est entre nous, cette affection, cette entraide, les amitiés avec les hommes, et puis nous avons presque toutes ramené à Marie, dont nous sommes satisfaites.
Récapitulons. La 2e DB a débarqué à Utah Beach le 1er août 1944. Et après 15 jours de combats acharnés, Leclerc installe son poste de commandement à Fleuret, petite bourgade au sud d'Argentan, dans l'Orne. Leclerc est un homme pressé, mais entre deux bivouacs, il prend le temps d'écrire aux siens.
Mot de Leclerc à sa sœur Yvonne, le 8 août 1944. Ma chère Vonnette, j'essaye de poursuivre l'ébauche tellement vite que je n'ai pas le temps de passer à Champiré. La victoire, la libération approche. Je n'ai pas changé au moral, un peu vieilli au physique. Pas de nouvelles de Thérèse. Notre pauvre papa vit-il toujours ? Baiser à tous. Philippe.
Adrien de Haute-Cloque est toujours en vie et retranché dans son château de Bellois, il suit les exploits de son fils.
Vite, vite, c'est l'heure.
Que dire de la situation militaire pour les Alliés en Normandie au 15 août 1944.
Alors, la situation militaire en France, elle est assez simple. Les Allemands sont finalement sur le reculoir. Il a fallu quasiment tout le mois de juillet pour percer et puis commencer à avancer et les faire reculer.
L'historien Guillaume Piketty.
Ils ont tenté une contre-attaque qui n'a pas fonctionné. Et puis, ils ont, dans la foulée, subi un désastre du côté de Falaise avec beaucoup de pertes, des gens morts et puis des gens qui sont faits prisonniers. Et l'autre élément qu'il est important d'avoir en tête, c'est que, alors même que ces combats se déroulent en France, dans le nord de la France, les Allemands subissent une raclée absolument épouvantable sur le front de l'Est. Et là, c'est terrible, parce que les Allemands reculent de partout, et ça consomme beaucoup, beaucoup de monde dans les troupes allemandes. Autant de monde qui aurait manqué ou qui manquait du côté de la Normandie.
Ajoutez à cela le débarquement des Alliés en Provence le 15 août 1944, avec, entre autres, le général Delattre de Tassigny, à la tête de l'armée B, la principale force militaire française de la libération.
Terre ! Terre, c'est la France ! Le général Delattre de Tassigny est prêt, comme est prête la première armée. Le pavillon étoilé flotte sur un ciel de bataille. La France a créé l'Empire, l'Empire recrée la France.
Du nord au sud, donc, les Allemands sont pris en tenaille et s'ouvre alors la route vers Paris.
Le 20 août s'achève en quelque sorte la bataille de Normandie et donc la participation de la 2e DB à cette bataille.
L'historien Jean-François Muratiol.
À ce moment-là, Leclerc est à 200 km de Paris, son PC est à Fleuret, un minuscule village au sud d'Argentan. On est à quoi ? On est à 200 km de Paris, on est à 180 km au nord de Rennes, donc on est très très loin de la scène principale. Donc Leclerc bout d'impatience.
Leclerc, ce lion impatient.
Oui, Leclerc trépigne, car les Anglais et les Américains veulent contourner la capitale. Pour quelle raison ?
Pour deux raisons. Une raison pratico-pratique, c'est que si vous libérez une ville, il va falloir la ravitailler. Et que la ravitailler, cela veut dire des questions logistiques lourdes. Or, les armées alliées qui, là, commencent à avancer relativement vite, mesurent que la logistique va devenir de plus en plus compliquée. Et puis, la seconde explication de ce peu d'enthousiasme allié pour entrer dans Paris, c'est l'idée que le combat urbain annihile tout avantage technique. C'est-à-dire, un char de combat, il est très puissant en tout terrain, dans une ville, beaucoup moins. On ne sait jamais, avec l'artillerie, qui on bombarde, les copains ou les ennemis. Pareil pour les avions. Et donc, Eisenhower, à l'origine, n'a strictement aucune envie de prendre Paris. Il contourne. D'ailleurs, il est assez rapidement en situation, avec notamment les forces de Patton, de contourner la ville. Mais bon, de Gaulle et quelques autres en décideront autrement.
La stratégie militaire d'Eisenhower se heurte au plan du général de Gaulle.
Do you want Paris restored by French combatants and its government or not?
Car si Paris n'est pas un objectif tactique pour les Alliés, la ville est au centre d'une bataille politique. Laquelle ?
Ah ben là, c'est extrêmement simple, c'est la prise du pouvoir. Voilà, dans un pays aussi centralisé que la France, prendre Paris, c'est acquérir évidemment un avantage décisif dans la bataille politique. Donc pour De Gaulle, l'enjeu de toute cette affaire, c'est la prise du pouvoir à Paris. Rappelons que De Gaulle quitte Alger le 18 août, il se pose à Cherbourg le 20 août, et ensuite il chemine en quelque sorte en suivant la progression de la 2e DB, de préfecture en préfecture, et c'est parfaitement clair, hein, ce cheminement, cette espèce de road movie, si l'on peut dire, donc de Cherbourg à Rennes, de Rennes à Laval, de Laval au Mans, de Mans à Chartres et à Rambouillet, ce voyage dans l'Ouest, en fait, a un but très clair, prendre le pouvoir. Donc oui, bien sûr, pour tous, l'enjeu est très clair, libérer la ville, bien sûr, faire partir les Allemands, mais Paris n'est pas n'importe quelle ville, et bien évidemment, chacun comprend très bien l'énorme enjeu politique qui se cache derrière la simple libération militaire de la ville.
Oui. Car sur cette libération militaire s'est greffée une mission secrète pour le général Leclerc.
En décembre 1943, donc 8 mois avant, De Gaulle a confié à Leclerc, qui donc est à la tête de la 2e DB, avant qu'elle ne parte en Angleterre, lui a confié une mission nationale, celle tout simplement de prendre le pouvoir à Paris. Et à ce titre, en décembre 1943, De Gaulle a nommé Leclerc, par une lettre secrète que Leclerc conserve constamment sur lui, gouverneur de Paris par intérim. Et donc, se retrouvant coincé à 200 km de Paris, on est là vers le 19-20 août, hein, alors que la bataille de Normandie est terminée et qu'il sait que les avant-gardes de l'armée américaine sont presque aux portes de Paris, le met dans une situation extrêmement complexe. Il bout d'impatience. Donc, il ne cesse d'alerter ses supérieurs américains en leur demandant l'autorisation de foncer vers Paris. Et la réponse est la même. Ne vous inquiétez pas, vous irez sur Paris, mais en temps voulu, quand Paris tombera comme un fruit-mûr, une fois qu'on l'aura contourné par le nord et par le sud.
Pendant que Leclerc tourne comme un fauve en cage, le peuple de Paris, lui, entre dans la partie.
Le comité d'action militaire du Conseil national de la Résistance et l'état-major national des forces françaises de l'intérieur adressent à la population parisienne l'appel que voici. Les troupes alliées sont à proximité de Paris. L'ennemi traqué bat en retraite avec les débris d'unités démoralisées. L'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale. La population tout entière doit se soulever. Français, debout, tous au combat.
Qu'est-ce qui pousse les Parisiens à l'insurrection ?
Les raisons, c'est que, d'une part, depuis le 6 juin, un vent de liberté commence à souffler, en tout cas dans les esprits.
Guillaume Piketty.
La deuxième raison importante, c'est que il y a cette idée que les Allemands sont affaiblis, que puisqu'ils reculent de partout, peut-être ils ne vont pas s'accrocher dans Paris et que donc autant en profiter pour les chasser plus vite que prévu. Et puis la dernière raison, c'est que de toutes les façons, si on déclenche une insurrection, les Alliés vont bien devoir rappliquer à toute vitesse. D'où effectivement d'abord des manifestations populaires début juillet, sur la première quinzaine de juillet, et puis ensuite une série de grèves qui vont se déclencher, des grèves avec les cheminots le 10 août, les policiers le 15, les postiers le 18, et le 18 au soir, le colonel Roltanguy, qui est le patron des FFI d'Île-de-France, déclenche l'insurrection.
Transmettez les ordres d'insurrection au PC.
Et il le fait contrairement aux ordres que le jeune Chaban-Delmas a rapportés de Londres. Il a fait un rapide aller-retour, c'est incroyable. Et à Londres, il a reçu l'ordre de ne rien déclencher tant que l'autorisation ne viendrait pas de Londres, justement.
C'est prématuré.
L'insurrection ne peut aboutir sans l'appui des Alliés.
Roltanguy s'en fiche complètement et déclenche l'insurrection le 18 au soir.
Parmi les insurgés parisiens, une jeune femme née en 1924, la poétesse Madeleine Riffaut. Elle avait 20 ans, en août 1944.
Et c'est dans la nuit du 18 au 19 que nous avons entendu, du dortoir où nous étions, les premiers coups de mitraillette de l'insurrection.
Attention !
Moi, j'ai vu l'insurrection de la mairie du 19e arrondissement. Je cantonnais à la poste avec la compagnie Saint-Just. C'était des garçons, jeunes ouvriers en général, qui avaient de 17 à 25 ans. On a fait quelques recrues aussi pendant l'insurrection, naturellement. Alors on a participé à tous les combats du nord de Paris et aux combats pour participer à l'insurrection.
Sachez que Madeleine Riffaut a combattu les armes à la main au cœur de ce Paris révolté.
Allez-vous-en, restez pas là ! Vite !
Nous sommes allés au prix de difficultés considérables, avec la voiture d'enregistrement de la radio de la nation française, dans les quartiers où les barricades spontanément se sont élevées avant même que le Conseil national de la Résistance et l'état-major des forces françaises de l'intérieur en aient lancé l'ordre.
Reportage de Pierre Crenès, 24 août 1944.
Nous nous sommes rendus dans ces quartiers qui cernent la place de la République, où les Allemands ont eux aussi élevé des barricades, et d'où il dit sur les patriotes français. Tout autour de nous, des éléments des forces françaises de l'intérieur, armés, repèrent une fenêtre d'où on ne sait qui tire sur eux. Voici un camarade qui passe avec un fusil mitrailleur, un revolver et une grenade. Je pense qu'il va faire une opération vers le petit hôtel d'où on croit qu'un élément ennemi tire.
Comment réagit Leclerc devant cette ville qui s'insurge contre la présence allemande ?
Que fait Leclerc ? Leclerc fait quelque chose qu'il fait beaucoup, il piaffe. Il râle, il attend son heure, il espère que l'ordre va venir, et donc il envoie quelques petits détachements précurseurs pour tâter le terrain, tâter les défenses, pour quand il aura l'autorisation de déclencher la manœuvre.
Il faut que j'ai cet ordre avant ce soir.
Leclerc rêve de lancer sa division blindée pour soutenir cette insurrection populaire parisienne. Mais pour l'instant, il n'en a pas l'autorisation. son impatience est également liée à la bataille politique qui se joue désormais à Paris.
C'est une bataille politique parce que cette insurrection parisienne, elle est déclenchée par la résistance. Résistance qui est fermement décidée à affirmer sa légitimité, à tout le moins partager le pouvoir à la libération. Et donc on a là deux légitimités qui ne s'affrontent pas, non, mais qui sont concurrentes. La résistance intérieure qui déclenche et anime l'insurrection parisienne et la résistance extérieure incarnée par la DB qui vient, elle aussi, prendre part au combat et donc affirmer sa présence et son importance. Et par-dessus tout ça, il y a le général de Gaulle.
Une nation coupée et libre sous l'égide d'un État fort.
Résumons. Nous sommes le 20 août 1944. La bataille de Normandie est gagnée, mais les Alliés tergiversent sur la libération de Paris.
Nous ne pouvons pas changer des plans qui ont été établis depuis des mois. De leur application dépend la victoire finale. Et ces plans excluent la possibilité de ravitailler des millions de Parisiens.
Intramuros, la résistance intérieure a lancé une insurrection populaire qui échappe au contrôle des gaullistes.
Allez, dépêchons les munitions dans la cour.
Une insurrection qui accélère la bataille politique pour la prise du pouvoir en France.
Vite.
Quant au général Leclerc, cloîtré dans son poste de commandement, à 200 km à l'ouest de Paris, il tente d'agir comme il peut.
Lettre de Leclerc au général de Gaulle, le 21 août 1944. Depuis 8 jours, le commandement nous fait marquer le pas. On m'a donné l'assurance que l'objectif était Paris. Mais devant une telle paralysie, j'ai pris la décision suivante. Guillebon est envoyé avec un détachement léger. Char, automitrailleuse, infanterie, direction Versailles ce soir ou demain matin.
Le 21 août, il envoie. Alors c'est un acte d'insubordination caractérisé, puisqu'il n'en informe pas, en tout cas pas directement, ses supérieurs.
Jean-François Muratiole.
Il envoie le lieutenant-colonel de Guillebon à la tête d'un petit détachement foncé vers Paris. Officiellement, c'est une mission militaire. Il s'agit d'aller éclairer la route et de prendre contact avec les résistants parisiens. En réalité, il donne à Guillebon une lettre qui, par délégation, le nomme lui aussi gouverneur de Paris, donc délégation de délégation, au cas où il serait amené à rentrer le premier Français dans Paris. Il faut absolument qu'une force française incarne la présence du GPRF dans Paris.
Le GPRF, basé à Alger, c'est le gouvernement provisoire de la République française. Instance qui incarne la légitimité de la résistance sous l'autorité du général de Gaulle.
Honneur et patrie.
Et c'est au nom du GPRF que Leclerc doit libérer Paris. Et c'est pour cette raison qu'il dépêche dans l'urgence le lieutenant-colonel de Guillebon avec l'accord du général de Gaulle.
Note de De Gaulle à Leclerc, le 22 août 1944. Pour le général Leclerc, j'ai lu votre lettre. J'approuve votre intention. Il faut avoir un élément au moins au contact de Paris sans délai. J'ai vu Eisenhower le 20.
Do you want Paris restored by French combatants and its government or not?
Il m'a promis que vous allez recevoir Paris comme direction.
Les 10 chars et les 150 hommes du colonel de Guillebon parviennent aux portes de Paris, mais ils sont bloqués par les défenses allemandes. Le 22 août, Leclerc rencontre le commandant Cocteau Gallois.
Je vous écoute, commandant Gallois.
Émissaire de l'insurrection parisienne qui réclame au plus vite l'intervention de la 2e DB pour venir en aide aux insurgés.
On se bat à nouveau dans les rues et nous manquons d'armes et de munitions.
Leclerc supplie le général américain Bradley et à 20h, tout bascule.
22 août 1944.
Souvenir du général Leclerc, 1946.
Dans un coin de Normandie, après de durs combats, piétinant d'impatience, nous recevons enfin l'autorisation tant attendue, marcher au secours de Paris.
Alors, le 22 août, de Gaulle arrache d'Eisenhower l'autorisation d'aller sur Paris.
Guillaume Piketty.
C'est-à-dire, Eisenhower décide d'envoyer l'ADB et, il ne faut pas l'oublier, la 4e division d'infanterie américaine. Donc, ce sont deux divisions qu'Eisenhower envoie, l'ADB et la DIUS.
Paris se bat et nous appelle. Manquant d'armes et de munitions, nous chargeons sur la capitale.
Rangez tout ! Mouvement immédiat sur Paris !
La deuxième DB fait un bond de 200 km le 23 août.
Jean-François Muratiol.
Ce qui est un petit exploit d'ailleurs. Elle campe à Rambouillet le 23 au soir.
La réception n'est pas très bonne, mais je mets en contact.
Le soir même, ce 23, De Gaulle arrive à Rambouillet. Les deux généraux discutent.
Vous allez avoir cet honneur, cette chance de libérer Paris.
De Gaulle reste à Rambouillet et Leclerc avance, cette fois-ci vers Paris.
Le 24, pensait-on, ce serait la journée de rentrée dans Paris, mais les défenses allemandes sont plus solides que prévu, donc il y a une journée de bataille à l'ouest et au sud de Paris le 24 août. Et le 24 août au soir, vers 19h, on est à Antony, et Leclerc, qui boude d'impatience, très déçu de ne pas être rentré dans Paris dès le 24 août, ordonne au capitaine Drone de rentrer en éclaireur dans Paris.
Qu'est-ce que vous faites là, Drone ?
J'en joins la colonne, mon général.
C'est idiot.
Oui, mais j'en ai reçu l'ordre.
Faut jamais obéir aux ordres absurdes.
Il me dit, voilà, filez droit sur Paris, ne vous occupez pas de ce qu'il y a à droite et à gauche, passez par où vous voudrez, il faut que vous alliez dire aux Parisiens que la division est là, qu'elle va arriver demain matin.
Témoignage du capitaine Drone, 1965.
Prenez ce que vous voudrez, prenez les unités que vous avez sous la main et foncez sur Paris. Nous savions fort bien que nous n'avions pas une mission militaire. Nous avions une mission essentiellement d'ordre psychologique.
Le 24 août au soir, donc, pour foncer sur Paris, le capitaine Drone rameute les gars de la Nouébé. Qui sont-ils ?
La Nouébé, c'est une compagnie qui est exclusivement composée d'Espagnols. À l'exception du capitaine Drone, qui commande la compagnie, et de ses deux officiers adjoints. Mais tous les autres, ce sont des Espagnols. Ce sont des Espagnols qui sont des anciens combattants de la guerre civile espagnole, côté républicain. Un certain nombre d'entre eux sont des anarchistes. Et ils ont, par le truchement du Corps franc d'Afrique en 1943, rejoint la DB au sein du 3e bataillon de marche du Tchad. Et donc c'est une compagnie de ce 3e bataillon de marche du Tchad qui, sous les ordres du capitaine Drone, fonce vers le cœur de la capitale et arrive, au soir du 24 août 1944, sur la place de l'Hôtel de Ville.
Notre char a été le premier à rentrer dans Paris.
Témoignage de François Colomb, 1972.
Le 24 au soir.
C'était aussi l'esprit Leclerc, ça ?
Eh oui, c'était l'esprit Leclerc, oui. On était fiers. On était fiers, comme Leclerc était fier de ses hommes, comme il était fier de libérer la France.
Pourquoi Leclerc choisit-il Drone et ces hommes-là en particulier ? Il y a une raison ?
Moi, je pense que oui. Enfin, Drone est un vieux de la vieille de la France libre, c'est un grognard de la France libre. Quant à ces Espagnols, ce sont des combattants qui sont extrêmement aguerris, guerre civile espagnole, aguerris à nouveau par le truchement des combats en Afrique du Nord, et qui sont extrêmement motivés pour aller, si vous me permettez cette expression un peu osée, ou entre guillemets, casser du nazi. L'idée, c'est d'en finir une fois avec la bête immonde, et donc ce sont d'excellents soldats ultra motivés. Parfait pour percer et pour arriver à l'Hôtel de Ville.
Et la petite colonne, une vingtaine de Haftrak, trois chars Sherman, s'est glissée à travers les rues de la banlieue parisienne. Nous sommes arrivés à la nuit tombante, pas tout à fait, mais presque, à la porte d'Italie.
Maman, regarde, viens vite.
Mon Dieu, c'est fini.
Paris est occupé par les Allemands, mais pas occupé partout. C'est-à-dire qu'il y a des points d'appui, et l'idée c'est, lorsqu'on tombe sur un point d'appui, de le réduire, ou si l'on n'y parvient pas, de le contourner. Et c'est ça que Drone, avec l'aide de quelques Parisiens qui lui montrent le chemin, va réussir à faire. D'où la pénétration très rapide, avec quelques combats évidemment, mais il arrive le soir, place de l'Hôtel de Ville. Et là, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'outre les responsables de la résistance intérieure, et donc les chefs de l'insurrection, ces hommes vont trouver d'autres Espagnols. Qui sont les Espagnols membres de la résistance intérieure parisienne. Et l'histoire dit, et je crois que c'est assez vrai, que toute la nuit, sur la place de l'Hôtel de Ville, des chants espagnols, des chants républicains espagnols, ont retenti avec ces résistants de l'intérieur, résistants de l'extérieur, tous Espagnols qui se sont retrouvés et qui ont chanté le bon vieux temps. «
el río pasó, ay Carmela, ay Carmela.
Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela.
Radiodiffusion de la nation française. Par ordre du gouvernement provisoire de la République, messieurs les curés sont requis de faire sonner les cloches de leurs églises pour annoncer l'entrée des troupes françaises et alliées dans Paris.
Le lendemain matin, 25 août 1944, la division Leclerc entre dans Paris par la porte d'Orléans. Comment ça se passe ?
Ah ben ça se passe déjà avec des combats. Parce que là, les gros points d'appui, il faut quand même les réduire. Et donc, il y a des combats difficiles. Il y aura des pertes de part et d'autre, plus du côté allemand, du côté français libre ou du côté résistant, mais néanmoins des pertes. Et donc, Leclerc avance, va installer son poste de commandement gare Montparnasse. Certains de ses hommes vont aller négocier, j'allais dire kidnapper le général von Scholtitz. C'est pas véritablement un kidnapping, parce qu'il va se rendre sans trop de difficultés.
Lieutenant Henri Karcher, de l'armée du général de Gaulle.
Général Dietrich von Scholtitz, gouverneur de Paris.
Êtes-vous disposé à vous rendre ?
Oui.
Alors vous êtes mon prisonnier. Rendez vos armes.
Et donc ils vont aller donc, le récupérer rue de Rivoli, l'amener gare Montparnasse, où il va signer une convention de reddition préalablement rédigée en tête du gouvernement provisoire de la République française. Et ça n'est pas rien, parce que Scholtitz a été choisi par Hitler pour tenir Paris, en raison de ses excellents états de service à Sébastopol. Certains le surnommaient le boucher de Sébastopol. Et une quinzaine de jours avant la libération parisienne, il disait encore qu'il défendrait la ville jusqu'au bout et qu'ensuite il la détruirait. Bon, il n'a rien fait de tout ça. Il s'est rendu, et donc il est arrivé, gare Montparnasse, signer cette convention de reddition devant le général Leclerc.
Cette convention de reddition, Leclerc accepte que Roltanguy, le chef des FFI, la signe aussi. Pour quelle raison ?
Ma réponse est simple, il accepte bien sûr que Roltanguy signe cette convention de reddition. Il semblerait que le général de Gaulle n'ait pas été très très content, ou ait fait semblant de ne pas être très content.
Propos du général de Gaulle, le 25 août 1944. De Gaulle.
Dites-moi, que fait la signature de Roltanguy à côté de la vôtre ?
Leclerc.
Ce n'est pas le moment de se mettre les communistes à dos. Ils ont leur part dans la libération, vous l'avez dit vous-même.
C'est vrai. Mais ne les poussons pas à vouloir tout contrôler. Ils y viendront d'eux-mêmes, bien assez tôt.
Je vous entends, mon général.
Leclerc a parfaitement conscience qu'il y a eu une insurrection, qu'elle a duré plusieurs jours.
Français, debout, tous au combat.
La participation de la résistance intérieure parisienne à cette libération de la capitale a été absolument essentielle. Et donc, je doute qu'il ait beaucoup hésité longtemps à accepter cette signature de Roltanguy. Bien sûr qu'il y a la signature de Roltanguy.
Au quartier général de la gare Montparnasse, de Gaulle maugrait contre Leclerc. Mais c'est essentiellement pour la forme.
Mémoire du siècle, colonel Roltanguy.
Je voulais faire une série de photos. On voit le général de Gaulle prendre connaissance de l'acte de reddition, demandant des explications à Leclerc. Leclerc disant, mais Chaban était d'accord. Et on voit général de Gaulle qui fusille Chaban du regard. Mais aussitôt après cette réaction première, il m'a félicité. Et Paris libéré par lui-même. C'est écrit d'ailleurs sur les bas-reliefs de l'hôtel de ville. Et ensuite, naturellement, libéré avec l'appui des forces françaises. Donc, je crois que tout se remet en place, historiquement parlant.
Après la reddition du général von Scholtitz, un radio-reporter tend son micro au général Leclerc. Une archive historique qui laisse transparaître la pudeur du gamin Picard.
Non, général, puis-je vous demander quelques mots pour la radio de la nation française ?
Je suis un peu
vous en prie, général. Quelques mots, les premiers mots à Paris.
Les premiers mots à Paris ?
Oui.
Eh bien. Attendez. Non, les premiers pas. Non, ça ne sera pas. Oui, ça exprimera trop mal les sentiments. Enfin, c'est quoi, je préfère.
Deux ans plus tard, en 1946, Leclerc aura trouvé des mots pour se souvenir de ses émotions.
Le 24 août au soir, et surtout le 25, après avoir bousculé la ceinture que l'adversaire s'efforçait de maintenir à l'ouest de Paris, nous sommes dans la place. Alors, chaque rue, chaque boulevard de la capitale voit se dérouler le même spectacle. Nos chars, nos fantassins, dirigés, conduits à l'ennemi par la population, appuyés par les éléments de la résistance, nos blessés soignés par les citoyens de Paris, nos morts honorés par eux.
Et alors, qui sort vainqueur de cette bataille politique qui est la libération de Paris, Jean-François Muratiol ?
Ah bah le vainqueur c'est De Gaulle, c'est parfaitement clair. Alors il y a beaucoup de vainqueurs, on pourrait dire que les Français sont vainqueurs, mais par le sacre sur les Champs-Élysées, la messe est dite, le pouvoir est pris, le gouvernement n'est pas encore là, De Gaulle a toutes les peines du monde à faire venir les ministres, des problèmes de communication, des problèmes de transport. Un premier conseil des ministres a lieu à Paris le 2 septembre, donc une bonne semaine se passe, mais De Gaulle est incontestablement le vainqueur politique de cette affaire, puisque il s'installe à Paris, il installe l'autorité du GPRF à Paris, et immédiatement, il entreprend la dissolution de toutes les forces, disons, paramilitaires, comme les milices patriotiques, et l'intégration à marche forcée des FFI dans l'armée régulière, hein, pour asseoir définitivement son pouvoir dans la ville, et d'une certaine façon, en France, dans un pays, encore une fois, aussi centralisé que la France, la prise de Paris, ce n'est pas seulement la prise d'une ville, bien évidemment, c'est en grande partie la prise du pouvoir.
Paris outragé. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
Le général de Gaulle, de toute évidence, sort vainqueur de cette affaire parisienne, puisque a lieu le 26 août cette descente des Champs-Élysées, lui-même en tête, et c'est véritablement un sacre républicain. Il est le grand patron à ce moment-là, c'est indiscutable. Le gouvernement provisoire de la République française qui, lorsque De Gaulle défile le 26 août, est encore assez largement à Alger, va arriver et s'installer, on va dire que c'est fait tout début septembre. Et donc les rênes du pouvoir français, du pouvoir républicain français, sont tenues par De Gaulle et les hommes et aussi les femmes qui le suivent. Donc le grand vainqueur, c'est De Gaulle.
Vive la France ! Vive De Gaulle !
Alors, cette libération de Paris, c'est l'œuvre de qui ?
Je dirais que c'est l'œuvre d'une magnifique alliance transeuropéenne et transatlantique qui débouche sur cette libération parisienne.
Une magnifique alliance, en effet, sans la présence néanmoins des soldats subsahariens qui ont été exclus de la 2e DB à l'automne 1943.
Au rapport, commandant.
Cela dit, on trouve une mosaïque très diverse dans cette division Leclerc.
La France libre était une sorte de conglomérat de combattants de la liberté. Des Français et des Françaises, bien évidemment, mais pas seulement. Par exemple, ces Espagnols, qui étaient des combattants de la liberté, je dirais, d'avant la Seconde Guerre mondiale. Bon. Ça renvoie à la dimension symbolique extrêmement forte de la conquête de Paris sur les Allemands, parce que Paris, c'est la capitale de la France, mais c'est la ville lumière. Et la prise, la chute de Paris, ou la prise de Paris, ça dépend de quel côté on se place, en août 1944, a eu un retentissement mondial. Et lorsque l'on lit les témoignages de résistants ou de résistantes françaises et français qui étaient dans les camps de concentration à ce moment-là, lorsque la nouvelle de la prise de Paris par les Alliés et par les Français, notamment les Français libres, est arrivée, même s'il était impossible de manifester quoi que ce soit, certains décrivent une sorte de houle de joie qui, comme ça, passe dans les rangs des déportés lorsque la nouvelle leur parvient. C'est dit l'importance de cette prise, et je trouve que c'est merveilleux que des Espagnols combattants de la liberté y aient participé.
Ensuite, c'est le triomphe et l'allégresse.
Je suis sur la place de l'Étoile, le jour de la rentrée de la colonne Leclerc dans la ville.
Les avenues de Paris sont trop étroites, car le peuple entier est là.
Voici maintenant qu'avancent des automitrailleuses françaises. Dans le véhicule, il y a des infirmières qui sont montées avec eux. C'est vraiment une atmosphère qui défie la description. On ne sait pas quoi dire. On est ému, on est bouleversé, comme le sont d'ailleurs tous les Parisiens.
Aux yeux de nos soldats et de moi-même, depuis le 25 août 1944, le Parisien, c'est l'ami, rencontrés sur le plus beau champ de bataille.
On sait que l'écho de cette libération a été très fort. Il y a eu des scènes de joie dans toutes les capitales alliées, à Londres. On sait, par exemple, on a dansé dans les rues de Montevideo, ce qui est quand même assez surprenant au premier abord, mais qui en dit long sur, je dirais, à la fois le rayonnement de la France à l'époque et de Paris en particulier.
Le colonel Claire Heyrich, donc, a très gentiment accepté de bavarder avec nous devant ce micro.
Archives, 1944.
Paris, tout en étant la capitale de la France, appartient au monde entier. Et c'était avec un grand soulagement que nous avons appris la libération de cette ville par les Français eux-mêmes. Cette ville qui contient tellement de beaux bâtiments et de monuments, et nous étions si contents de savoir qu'il y a eu vraiment très peu de dégâts.
Paris, c'est la capitale de la France, le pays de la Révolution française. C'est le pays de tout de même un certain nombre d'idéaux républicains. Et que sa capitale soit finalement libérée du joug nazi, du joug fasciste, est absolument essentiel au plan symbolique. C'est un signe d'espoir. C'est cette idée que cette fois-ci, la fin est proche.
Le lendemain, 26 août, un grand défilé victorieux s'élance sur les Champs-Élysées. Et pour l'histoire, un radio-reporter se fait le témoin du jour de gloire de la division Leclerc.
Une foule immense ouvre toute la place de l'Étoile. Tout à l'heure, on chantait la Marseillaise, ça va recommencer, ça pue tout le temps, toute la journée, tandis que les troupes de Leclerc passent dans leurs camions. Il y a là des Algériens, des Marocains, il y a là des marins avec leurs bérets dans les tentes, et il y a là beaucoup de Parisiens, des Bretons, des Lorrains, des gens de tous les coins de la France qui, dans l'armée Leclerc, en Angleterre, en Italie, se sont battus pour la cause de la liberté et qui aujourd'hui défilent dans Paris, capitale de la liberté.
Le défilé du 26 août, le lendemain donc, hein, du 26 août 1944 sur les Champs-Élysées devant peut-être 1 million, 2 millions de personnes, je crois, est un événement tout à fait unique dans l'histoire de France. Une telle unanimité nationale et qui symbolise en quelque sorte à lui seul la libération de la France.
C'est la fin de l'été 1944. Paris est libéré. Les images sont belles et incrustées dans nos mémoires. On a le sentiment que c'est la fin de la guerre. Et pourtant, les combats vont encore durer 8 mois.
Alors, l'objectif suivant pour Leclerc, c'est, je crois, de continuer à combattre donc en tête, puisque c'est une division blindée. Et bien sûr, dans un coin de sa tête, il y a Strasbourg. Il y a Strasbourg avec cette idée qu'il devrait être possible d'accomplir le serment de Couffrat.
Jurer de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg.
C'est-à-dire d'aller jusqu'à Strasbourg et de libérer Strasbourg après avoir libéré Paris.
Chers auditeurs, c'est enfin Paris qui vous parle.
Paul Éluard, fin août 1944.
C'est Paris qui vient d'arracher son bâillon, qui retrouve sa liberté. Et pour Paris, la liberté, c'est la vie.
En conclusion de ce cinquième épisode, ayez en tête que la libération de Paris, c'est le point de rendez-vous des deux résistances. Et après 4 ans de combat, c'est le retour de l'esprit républicain dans la capitale.
Libération ! Le général de Gaulle, qui fut le premier à vouloir cette libération, est entré à son tour dans la ville libre. Pour la première fois depuis 4 ans, un micro français parle français.
Paris libéré, c'est aussi la victoire politique de Gaulle face aux Alliés, offerte sur un plateau par la 2e division blindée, avec le concours de la résistance intérieure. Enfin, après quelques jours de repos, euphoriques, les hommes de Leclerc repartent à l'assaut.
Pour Leclerc, il pipe, pipe.
Ouais !
Il pipe,
ouais !
Il pipe,
ouais !
Et à Berlin !
Après Paris, Leclerc et sa troupe s'élancent vers Strasbourg à l'Alsacienne. C'est l'horizon du prochain épisode. La cavale du général Leclerc, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Anne Kessler et Laurent Stocker, sociétaires de la Comédie-Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Léonie Ferré. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer, Cédric Diallo. Prochain épisode, Le Nid de l'Aigle. La cavale du général Leclerc est un podcast original de France Inter.